Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèle à notre émission quotidienne La Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi. Il est 3h du matin du temps à Jakarta. Ses auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi l'arrivée de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission la rubrique distraction, c'est-à-dire le magazine musical indonésien. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Ses auditeurs auditrices, voici le journal aujourd'hui, en titre « Le dialogue national de littérature indonésienne crée 20 recommandations ». La ministre indonésienne des Affaires étrangères et périphériques de la contrée sont homologues de la Nouvelle-Zélande à Manado. Voici le bulletin complet. L'Agence de développement de langage a organisé le deuxième dialogue national de littérature indonésienne, ou MUNSI, à Jakarta du 19 au 21 juillet 2017. L'événement a invité 150 littéraires de l'Indonésie à dialoguer et à changer des idées. Le chef du centre de développement de l'Agence de développement de langage, Gufron Ali Ibrahim, a expliqué: cette activité vise à faire progresser la littérature en Indonésie. Ce dialogue national crée 20 recommandations pour l'avancement et la promotion de la littérature indonésienne.
Salah satu dari 20 rekomendasi itu.
L'une de ces 20 recommandations est de recommander ce dialogue comme un dialogue triennal. Il vise à la préparation de la littérature et du prochain dialogue. On espère qu'il y aura la littérature à anthologie, littératrice ou au groupe. Gufron a expliqué que ce dialogue national pourrait contribuer au mouvement national de la privatisation, en particulier dans la littérature indonésienne. Le thème de cette année du dialogue est « Sastra sebagai penjaga kebinekaan » ou « Littérature comme protecteur de la diversité ». Ces recommandations ont été mises en place à long terme. Le premier jour, le ministre de l'Éducation et de la Culture, Mohadjir Effendi, a assisté au dialogue pour lancer des livres publiés par le comité du deuxième dialogue national. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, organisera la réunion bilatérale avec son homologue néo-zélandais, Gary Brownlee, le 29 juillet à Manado, selon l'Ouest du Nord, pour discuter de la coopération accrue entre les deux pays. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, organisera la réunion bilatérale avec son homologue néo-zélandais, Gary Brownlee, le 29 juillet à Manado, Sulawesi du Nord, pour discuter de la coopération accrue entre les deux pays. Le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, Arman Atanasir, dans une conférence de presse jeudi, a déclaré que les deux ministres des Affaires étrangères se réunirent en mars de l'événement Réunion régionale sur la lutte contre le terrorisme, le terroriste et le terrorisme transfrontalier à Manado. Arman Atanasir a expliqué certaines questions qui seront le sujet de discussion lors de la réunion bilatérale sont sur l'augmentation des échanges et de la coopération d'investissement. Il a souligné que l'accent est une tentative d'élargir l'accès au marché des produits agricoles de l'Indonésie en Nouvelle-Zélande, comme les fruits. En outre, ils seront discutés de l'augmentation de la coopération et de l'investissement dans le domaine de l'énergie, en particulier l'énergie géothermique, car comme nous le savons, la Nouvelle-Zélande a des avantages dans la question de l'énergie géothermique. Le gouvernement indonésien a présenté une proposition qui encourage les efforts de protéger les intérêts des petits pêcheurs dans la négociation de l'Organisation mondiale du commerce ou OMC. Le communiqué de presse du représentant permanent de l'Indonésie à Genève a annoncé vendredi les négociations de la mise en place de discipline sur la subvention à la pêche de l'OMC a eu lieu au CIES de l'OMC à Genève le 17 et 18 juillet 2017. La délégation indonésienne participant aux négociations a souligné l'importance de l'autorité des pays en développement et le pays sous-développé d'avoir la flexibilité de l'arrangement sur la pêche d'une petite échelle et de la pêche artisanale. La délégation indonésienne a également transmis une proposition révisée de l'Indonésie sur la base des commentaires reçus par des membres des négociations précédentes tenues à la mi-juin 2017. Les propositions proposées par l'Indonésie et maintenant plus fermement sur les efforts de protéger les intérêts des petits pêcheurs. Le danger du radicalisme qui a maintenant largement attaqué les jeunes à devenir l'un des points d'accord lors de la 10e réunion ministérielle de la science sur la jeunesse, AMMIX et AMI plus 3, cela a été dit par le ministre de la jeunesse et des sports, Imam Nahrawi, appelle l'organisation de la conférence de presse de la journée de l'accord de la 10e AMI et AMI plus 3 à Jakarta jeudi. Le ministre a dit: le radicalisme arrive maintenant chez les jeunesses, non seulement en Indonésie, mais dans d'autres pays de l'ASEAN. À cette réunion, on a discuté la question du radicalisme. Selon Imam Nahrawi, ce parti encourage les jeunes de l'ASEAN de jouer le rôle plus actif pour aider à éradiquer le radicalisme, l'extrémisme, ainsi que la construction et le développement de la prolisme, à travers des initiatives de l'ASEAN comme l'initiative de la communauté socio-culturelle de l'ASEAN ASTG sur la culture de prévention comme moyen de réaliser la communauté de l'ASEAN qui est pacifique, forte, prospère, en particulier les jeunes. Elle a également assuré que tous les résultats de l'accord seront continués. Dernier, le gouvernement indonésien a donné les possibilités de coopération entre les hommes d'affaires de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud pour faciliter une réunion d'affaires qui pourrait remonter les performances de l'exportation de l'Indonésie, en particulier au marché non traditionnel. Le directeur général du développement de l'exportation nationale du ministère du Commerce, Arlinda Los, de donner le discours au forum indo-sud-africain à Johannesburg, a annoncé que le gouvernement a facilité les 18 hommes d'affaires nationaux de divers secteurs excellents pour rencontrer et présenter ses produits aux hommes d'affaires sud-africains. Les hommes d'affaires indonésiens obtiennent des informations, explorent les possibilités d'affaires et obtiennent un accord commercial avec un partenaire en Afrique du Sud. À cette occasion, les hommes d'affaires indonésiens de divers secteurs ont été présentés aux 150 hommes d'affaires sud-africains. Arlinda a confirmé que le marché sud-africain était l'un des principaux buts et objectifs des exportations de l'Indonésie qui pourraient augmenter à l'avenir. Chers auditeurs, c'était le journal aujourd'hui.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, nous continuons notre émission avec la revue de presse. L'éditorial du journal Média Indonésia le 21 juillet a pour titre « Pour le bien de la consolidation démocratique ». La discussion sur le projet de la loi de la mise en œuvre des élections a finalement terminé à la session plénière du Parlement jeudi soir. Pendant 9 mois, ce projet de la loi a été discuté au niveau du comité spécial au cours de laquelle le public a attendu avec le sentiment expectatif agacé. Il y a l'espoir généré que la loi électorale sera en mesure de guider l'idéal pour les élections simultanées en 2019. Cependant, il y a des enjeux d'aggravation à voir la dynamique de discussion au Parlement qui sont très longues et dissous. On fait les deux des grands travaux de démocratie au radio commencé l'étape en juin 2017. Mais c'est la politique dans une démocratie. Enfin, le public doit recevoir toutes ses décisions, y compris les décisions relatives aux séries présidentielles ou ses nominations présidentielles. L'option seuil présidentiel de 20 jusqu'à 25% est soutenue par des factions de gouvernement des partis politiques de la coalition, le PDIP, Golkar, le Parti Réveil National, le Parti Uni pour le Développement et le Parti Nasdem et Hanura. Cependant, le Parti Gerindra, le Parti Démocrate et le Parti de la Justice Prosper soutiennent l'option sans seuil. Le parti PAN préfère un moyen, à savoir le seuil de nomination présidentielle 10%. Enfin, il a été décidé de céder à la candidature présidentielle de 20 jusqu'à 25%. Cela signifie que les élections générales en 2019 seront similaires aux deux élections précédentes, 2009 et 2014, prévoyant la candidature présidentielle de moins 20% des sièges au Parlement, soit 25% des votes valides à l'échelle nationale. L'éditorial du journal Sindo le 20 juillet a pour titre « Couper la figure de Rupia ». Après le silence pendant près d'un an, les nouvelles de simplification de Rupia de 1000 à 1 est bondée soudainement. Le gouvernement de la Banque d'Indonésie, M. Agus Martowardoyo, a nouveau mis plan de la politique de simplification de chiffres de rupiah, ou mieux connu sous le nom redénomisation, et demande instamment au Parlement d'inclure dans le programme national de législation cette année. Le programme de redénomisation ou tailler la valeur de la monnaie n'est pas un programme qui est généralement affecté par un État, parce qu'il faut les diverses conditions préalables qui ne sont pas faciles. Si le programme est convenu entre le gouvernement et le Parlement, cela ne signifie pas nécessairement que la politique pourrait être réalisée sur le terrain. La Banque centrale a dit « Au moins, on a besoin d'un 7 ans après le cadre juridique et approuvé pour être réalisé à la communauté ». La période de préparation a duré 2 ans, la période de transition d'environ 4 ans et 1 an est nécessaire pour la phase de la mise en œuvre. Il est donc naturel que Agus Martowardoyo a insisté pour que le projet de la loi de redénomination de rupiah soit bientôt ratifié cette année. Auparavant, un certain nombre de partis, y compris le Parlement, doutent de la gravité de la Banque d'Indonésie dans la réalisation du programme de redénomination de rupiah. Mais Agus Martowardoyo a fermement rejeté cette allégation. Le programme de redénomination de rupiah, si peut-être réalisé, a un bon impact sur la monnaie du pays. La Banque d'Indonésie est en train d'intensifier la discussion sur la redénomination de rupiah avec le ministère des Finances et le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme afin d'entrer dans le programme national de la législation cette année. En outre, la Banque centrale est en train de finaliser des programmes de sensibilisation pour que les gens ne soient pas surpris quand la politique est appliquée. Le dernier, l'éditorial du quotidien Republika, le 21 juillet, a pour titre « L'unité et la solidarité de la communauté ». Des centaines d'ulémas de l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe ont décidé de donner naissance à la déclaration Padang. Il y a 6 points approuvés par les ulémas qui seront réunis dans la ville de Padang, Sumatra-Ouest, le 17 jusqu'au 20 juillet 2017. L'unité et la solidarité des musulmans sont devenus le thème central des 6 points clés de la déclaration de Padang. Le consensus des ulémas de l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe pour réaliser l'unité des musulmans est un désir noble. Le conflit et les différences internes parmi les musulmans est une réalité, mais la différence ne doit pas faire l'unité déchirée. Selon le journal Republika, les ulémas doivent donner un exemple sur l'unité, la fraternité et l'entraide à son peuple. les gens vont bien sûr suivre l'exemple de ce que font les savants que sont devenus son modèle. Ainsi, les ulémas doivent être proactifs pour résoudre les différends. Et selon ce quotidien, la déclaration de Padang devrait être un élan pour renforcer l'unité et la solidarité du peuple. Chers amis, c'était la revue de presse de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, Service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service international, la Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, on écoute maintenant l'histoire d'aujourd'hui, l'édition 22 juillet. On va commencer le 22 juillet 1917, le Siam s'engage dans la Première Guerre mondiale. Après plus de 2 ans de neutralité, le roi Rama VI décide d'engager le Siam appelé Thaïlande depuis 1939 dans la Première Guerre mondiale. Malgré de bonnes relations avec l'Allemagne, les dirigeants choisissent de rejoindre le camp des Alliés. Cette décision vise à accroître la stature internationale du pays qui envoie ainsi une petite force expéditionnaire en Occident, environ 1280 volontaires. Saisissant par ailleurs des défis allemands de la compagnie North German Lloyd. On continue en 1917 la naissance d'Adam Malik Batubara. Adam Malik Batubara a été le 3e vice-président de l'Indonésie, un diplomate de haut rang et l'un des pionniers du journalisme indonésien. Malik a joué un rôle important dans les événements qui ont mené à la déclaration de l'Indonésie de l'indépendance. Le 16 août 1945, Malik et d'autres prennent part dans une kidnappée mouvement nationaliste Soekarno et dirigeant Mohammad Hatta. Ils ont pris les 2 dirigeants de la ville de Rengas Dengklok et les ont contraints à déclarer l'indépendance de l'Indonésie, à combler le vide laissé par les forces japonaises qui avaient professionnel la CD. Soekarno et Hatta a déclaré son indépendance de l'Indonésie. Enfin, le 17 août 1945, les 2 ont également été élus comme premier président de l'Indonésie et vice-président. Après être détenu un journaliste et un politicien, Adam Malik a ensuite pris les fonctions d'un diplomate. En 1959, il a été nommé ambassadeur auprès de l'Union soviétique et la Pologne. Ceci a été suivi en 1962 par un rendez-vous en tant que président de la délégation indonésienne pour les négociations à la main sur l'Iran occidental en Indonésie. Il a ensuite servi comme ministre pour le commerce avant d'être nommé ministre de la mise en œuvre de l'économie guidée de Soekarno et conseil des ministres. On continue le 22 juillet 1933, premier vol autour du monde en solitaire. L'aviateur américain Willie Post boucle en 7 jours, 18 heures et 49 minutes le premier tour du monde en solitaire. Le pilote automatique installé sur son appareil en Lockheed Vega 5B, surnommé le Winnie May, ainsi que d'autres équipements novateurs pour l'époque lui permirent d'effectuer ce tour de la planète en solo. On termine le 22 juillet 1946, fondation de l'OMS. L'ONU créée en juin 1945, fonde l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, une institution spécifique à vocation médicale et humanitaire. L'OMS a pour mission d'améliorer le niveau de santé des nations. Ses bureaux sont installés à Genève. Chers auditeurs, c'était notre rubrique quotidien. Aujourd'hui dans l'histoire, ce soir, l'édition le 22 juillet.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Secrétaire, voici donc la mise au point et pour le titre, l'Indonésie et les Pays-Bas signent le mémorandum de compréhension de la coopération pour résoudre le terrorisme. Le terrorisme et le radicalisme ne sont pas seulement connus par l'Indonésie ou seulement certains pays. Ces problèmes deviennent des problèmes mondiaux qui doivent être abordés aux efforts déployés au niveau international. À cet égard, le mercredi 19 juillet 2017, l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, BNPT, d'Indonésie a signé un mémorandum de compréhension sur la coopération avec le coordinateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, NCTV, des Pays-Bas, dans la lutte contre le terrorisme. La signature a été faite par le dirigeant de BNPT, le commissaire général de la police, Suhardi Alius, et le dirigeant de NCTV, HWM School, assisté par l'ambassadeur néerlandais d'Indonésie, Rob Swartbol. Citant un rapport dans les pages de BNPT, le chef de BNPT a dit que le Pays-Bas s'intéresse par la lutte contre le terrorisme qui a été fait par BNPT. Étant donné que l'Indonésie est en paix avec la plus grande population musulmane et les approches utilisées par BNPT dans la lutte contre le terrorisme. Suhardi Alius a expliqué l'intérêt de NCTV à coopérer avec BNPT et parce que ce pays avoue comment BNPT peut traiter les terroristes et deviennent des anciens terroristes à travers le programme de déradicalisation. Selon lui, l'approche adoptée dans ce programme est rare dans d'autres pays, à savoir impliquant des ulémas, des fonctionnaires, des psychologues et des sociologues. Ils peuvent directement interagir avec les prisonniers terroristes en détention. Dans son discours, Skov a déclaré qu'un protocole d'entente renforcera la coopération entre les deux parties. Elle a également souligné l'importance de la signature du protocole d'accord entre les deux organisations d'Indonésie et de Pays-Bas. Chouf explique, avant la signature soit mise en œuvre, le président Joko Widodo et le premier ministre Mark Rutte lorsqu'ils se sont rencontrés lors du sommet du G20 récemment à Hambourg en Allemagne, faisant souvent appel à un protocole d'entente. Chouf a expliqué, cet accord est important de réaliser. Avec le protocole d'accord, les deux parties attendent également un échange d'informations. Pour NCTV, les questions qui sont aujourd'hui mises accent sont des terroristes étrangers combattants rapatriés, les activités d'Al-Qaïda et d'ISIS, l'extrémisme, viol et le cybercrime. NCTV a également prêté attention aux médias sociaux utilisés par les terroristes et les extrémistes comme moyen de marketing et de recrutement. À cette occasion, le chef de BNPT, Suhardi Alius, rappelle également à NCTV que maintenant les femmes peuvent aussi devenir un terroriste. Alors que HWM Souf a également dit que le fils d'un terroriste devient leur préoccupation parce que les enfants de moins de 9 ans qui résident normalement dans un environnement terroriste ont généralement une compréhension radicale et sont compétents d'utiliser des armes à feu. Était également présent à la signature du protocole d'accord, la zone 3 de coopération internationale de BNPT, l'inspecteur général de la police Hamidine et les hauts fonctionnaires de l'échelon 2 et 3 dans BNPT. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel ayant pour titre le Soto Tauji, l'alimentation de Cirebon. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de la Radio République d'Indonésie. Soto est l'une des authentiques cuisines indonésiennes. Différents types de soto se trouvent en Indonésie et cette cuisine typique indonésienne est en général toujours servie avec du riz ou lontong sur le riz préparé dans le feuille de bananier. D'habitude, chaque région appelle cette soto avec son nom d'origine, comme soto Madura provient de Madura, soto Tegal provient de la ville de Tegal et soto Kudus provient de Kudus. Chaque soupe est unique, comme ce que cette fois-ci nous vous présenterons, le soto Tauji de Cirebon. Le soto est généralement utilisé des ingrédients de base comme le curcuma et cette soto Tauji utilise des ingrédients de base Taucho. Soto Tauji est une sorte de soto soit soupe avec une sauce à base de Taucho ou de la pâte sauce de soja. Taucho ou de la pâte de sauce de soja est le produit alimentaire traité fait en graines de soja. Et puis, comme le contenu de soto Tauji est des bœufs coupés en petits morceaux ou la viande de poulet déchiquetée et puis couplée avec des nouilles de riz, germes de soja, les œufs durs et des gâteaux de riz ou de riz comme une sélection de sources de glucides. Et puis la dernière, on donne deux jus de citron et piment au goût. Taucho est facile à obtenir à Cirebon parce que Cirebon a beaucoup d'usines de sauce de soja locale que nous ne pourrions pas savoir et dans la fabrication de sauce de soja ayant la matière première de soja, il y a des résidus qui ne sont pas utilisés dans la sauce finie. À Cirebon, la pâte de sauce de soja est appelée Taucho. Taucho est alors par le peuple de Cirebon et cuit à nouveau d'être utilisé comme plat d'accompagnement ou dans les ingrédients de base de plat, comme quand on cuit le soto Tauji. Si vous visitez Cirebon, vous pouvez aller à la rue Pekeringan pour goûter cette soto Tauji. Une sensation de fraîcheur, savoureuse et chaude, en bon à manger à la nuit, surtout quand le temps est un peu froid à cause de la pluie. Le prix par portion est environ 12 000 rupiah. Et pour ajouter la saveur de cette soto Tauji, d'habitude, le vendeur met également les autres plats sur la plaque, comme le tempeh frit, le tofu frit, saté des œufs, de caille et des biscuits. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici une news en couleurs ayant pour le titre le Festival international de Borobudur. Selon le ministre indonésien du tourisme Arif Yahya, les touristes viennent en Indonésie en raison des facteurs culturels. La culture indonésienne a été reconnue par le monde et est toujours inclue dans le niveau de 20 meilleurs, la version du Forum économique mondial. Parce que la culture devient une attraction touristique majeure de touristes étrangers en Indonésie, le gouvernement organise une variété de festivals culturels pour attirer les touristes étrangers. L'un des festivals qui aura lieu est le Festival international de Borobudur. Ce festival aura lieu le 28 au 30 juin 2017 au temple Borobudur, Jawa Central. Sur les 13 événements qui auront lieu, 8 événements sont les événements culturels. Par conséquent, ce festival international devrait apporter plus de touristes. En plus d'augmenter le nombre d'arrivées de touristes, le Festival international de Borobudur est également organisé comme un forum pour les artistes du pays et de l'étranger pour présenter leur meilleure créativité ainsi que pour stimuler l'économie locale. Le Festival international de Borobudur 2017 se déroulera en présence des artistes de la Chine, du Japon et de l'Inde. Les artistes étrangers font la collaboration avec des artistes de différentes régions pour produire les arts et les spectacles culturels du matin au soir. Le Festival international de Borobudur 2017 sera animé par des spectacles d'art locaux de Lumajang ou Java Est, Banten et la résidence et ville à Java Central telles que Pekalongan, la ville Tegal, les résidences Cilacap, Jepara, Wonogiri, Rembang et Magelang. En plus de tenir diverses attractions culturelles, le Festival international de Borobudur 2017 sera également animé avec l'exposition du musée et des antiquités, l'apparition des ambassadeurs artistiques de la province ainsi que le voyage de familiarisation. Dans cette activité, les participants du monde entier seront invités à directement voir les destinations et la beauté du temple de Borobudur, les activités des villages touristiques autour de Borobudur, y compris les activités de la communauté locale dans une variété de formations touristiques dans l'accueil des touristes. Le Festival international de Borobudur 2017 a été lancé le 17 juillet par le ministre du Tourisme Arif Yahya et le gouverneur de Java Central Ganjar Pranowo. Lors du lancement au ministère du Tourisme, les ambassadeurs des pays amis étaient également présents. Chers amis, c'est la nouvelle en cours pour ce soir. Merci d'être fidèles avec nous. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les temps amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop de l'Indonésie, Imaniar. Voici sa première chanson intitulée « Mon désir ». Bonne écoute.
Entah bagaimana Chers auditeurs, c'était la chanson du manière intitulée Mon désir. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Imania, qui a le nom complet Imania Nur Said, née à Jakarta le 15 octobre 1965, est une chanteuse indonésienne. La fille du grand musicien Said Klana est cohérente du courant musical R&B. Avant d'être reconnue en tant que soliste, Imania a rejoint avec ses frères dans une bande de famille, The Big Kids, et elle a chanté ensemble avec sa sœur Lydia Nur Said. Son jeune frère, Iwan Nur Said, a participé au monde de la musique de jazz et d'autres son jeune frère, Inan Nur Said, était célèbre comme le batteur qui a rejoint le groupe musical Demerat avec le courant musical jazz et le groupe musical God Bless, qui a le courant de rock. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante d'une manière intitulée « Désordonnée ». Bonne écoute. Ciao.
saja kamu jadi aku. Coba apa yang kau harus lakukan? Kita mau putus cinta apa lagi? Saona.
Chers amis longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse pop indonésienne, Imaniar. La musique qui est facile à écouter mais exclusive est un bon emballage pour le vocal typique d'Imaniar et sa sœur Lydia. Le vocal de Lydia qui a la tendance jazz est combiné uniquement avec la nuance R&B. Malheureusement, il y a seulement deux albums qu'elles ont été lancés. Imaniar est également devenue une soliste en lançant plusieurs albums, y compris Mon Désir et Désordonné, qui a vendu près d'un million de copies. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson d'Imaniar intitulée Tempête de l'amour. Bonne écoute et à bientôt!
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Tanpa kata, tanpa nada, rintik hujan pun menafsirkan kedamaian. Hanya rasa, hanya prasangka yang terdengar di dalam.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.